nous connaissons tous, la maladie de la lèpre, une maladie qui n'existe plus dans nos contrées depuis quelques décennies, peut-être quelques siècles. Une maladie qu'on appelle aussi le bacille de Hansen, du nom du docteur, c'est un Norvégien, je crois, ou un Suédois, scandinave, qui découvrit cette maladie. La maladie de le bacille de Hansen. Alors, cette maladie, elle est causée par une infection qui est due à, justement, à un virus, à un bacille qui se contracte et elle affecte principalement la peau et les nerfs. Parfois, l'incubation dure assez longtemps. Parfois, il faut attendre plusieurs années, voire 5 ans, avant que les premiers symptômes apparaissent, qui sont des taches anesthésiques, des taches blanchâtres qui apparaissent comme ça sur le corps, insensibles, on ne sent plus rien. Si vous avez ça un jour, en vous réveillant le matin, ce n'est pas la lèpre, elle a été éradiquée de nos contrées. Ne paniquez donc pas. Et par la suite, si le malade ne reçoit pas un traitement efficace, eh bien, elle va évoluer et elle va s'attaquer de plus en plus à des nerfs plus gros. Des nerfs plus gros qui vont entraîner, ce qui va entraîner une paralysie et aussi une perte de la sensation. Aux pieds, aux mains, à la face. Aux mains, les muscles des mains vont fondre et la main du lépreux peut être déformée en forme de pince, en forme de griffe, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la main en griffe, ou aux pieds, il n'y a plus de voûte plantaire, il n'y a plus de coussin plantaire, les pièces les salées, ou alors au niveau de la face, les paupières ne savent plus se fermer entièrement. Alors, puisque le malade est insensible à la douleur, quand il marche sur une épine et que son orteil s'en trouve atteint, il ne va pas éprouver le besoin de se soigner ni de se désinfecter. La cuisinière qui manipule ses ustensiles de cuisine, elle ne va pas sentir non plus le plat qui est bouillant. Elle peut se brûler, elle ne sentira rien. Elle ne va pas éprouver non plus le besoin de se soigner, de se désinfecter. Alors là, il va y avoir une infection qui va s'installer. Et les extrémités, comme les doigts ou les doigts de pied ou les orteils, vont être atteints, vont se dégrader et ils vont finir par tomber. Une terrible maladie. J'ai eu l'occasion personnellement de rencontrer quelques lépreux qui avaient perdu des phalanges, qui avaient perdu des pieds, qui avaient perdu des mains, qui étaient exclus de la société, qui ne savaient plus subvenir à leurs propres besoins, et dont les activités principales étaient de mendier en tenant un bol entre des manchons de main, en espérant recevoir quelques pièces. Quelque chose de triste, quelque chose d'atroce, la lèpre. Et un médecin missionnaire, Thompson, explique qu'il fut saisi de stupeur à l'approche de la porte de Jaffa à Jérusalem, lorsqu'il vit pour la première fois des mendiants priver Dieu ou donner, qui levaient leurs bras dépourvus de mains et leur bouche sans palais qui émettait des sons qui n'avaient plus rien d'humain. Quelque chose de triste, de pénible, de lourd à regarder, à supporter, marginalisé, mis en marge de la société. Il y a quelqu'un qui a souffert, plusieurs personnes qui ont souffert de la lèpre dans la parole de Dieu, et vous avez sans doute deviné en introduisant par cette maladie pénible et douloureuse de qui, à qui je voulais faire allusion, sans doute. C'est vous deux. Mais le personnage central, ça sera Naaman. Naaman le lépreux. 2 Rois. Chapitre 5, versets 1 à 19, ce sont les passages dont nous allons faire la lecture ce matin. Géasi, c'était son serviteur, qui a contracté la lèpre parce qu'il a voulu s'approprier les dons que Naaman avait refusés de la part, que Élisée avait refusés de la part du prophète Naaman. Effectivement. Deux rois, on va faire la lecture, chapitre 5, versets 1 à 19. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Verset 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et lui dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y aura un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et y devenir pur ?» Et devenir pur ? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Quelques mots de contexte. On se situe juste après le schisme du 9e siècle, donc la séparation du royaume d'Israël en deux, le royaume du nord qui se sépare du royaume du sud, ou les 10 tribus qui se séparent des 2 tribus, ou le royaume d'Israël qui se sépare du royaume de Juda. Alors, après justement ce schisme, les Syriens vont faire régulièrement des incursions en Israël pour combattre contre les rois d'Israël qui vivent, les souverains d'Israël qui sont installés à Jérusalem. À Jérusalem ? Ben non. Parce que Jérusalem, c'est la capitale du royaume du Sud. À Samarie, capitale dans un premier temps du royaume du Nord. Alors, en cette période, c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît le prophète Élisée, qui est le successeur du prestigieux prophète Élie. Et c'est donc dans ce contexte, sur cette toile de fond, que se situe le texte que nous avons lu. Naaman était un personnage qui occupait un rang élevé. C'était un dignitaire. Il occupait un rang honorable dans l'armée du roi de Syrie, puisqu'il en était le chef. Il était chef de l'armée des rois de Syrie. Il avait une bonne réputation et il se faisait apprécier du roi de Syrie. Le texte nous dit que c'était un homme courageux, brave, fort, vaillant. Et tout semblait lui réussir. Tout semblait aller pour le mieux pour lui. Cependant, après la longue liste élogieuse de ses vertus, il y avait un mais. Un mais qui contrariait tout le cours de sa vie. Naaman, chef, nous dit le texte, de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était un homme fort, courageux et vaillant, mais il était lépreux. Au plus profond de lui-même, malgré toute sa position enviable, malgré toutes ses prérogatives, malgré tous ses privilèges, malgré tous ses avantages, malgré son statut, il y avait un mais. Il souffrait d'un mal auquel les plus grands spécialistes de son époque n'avaient rien pu faire. Les plus grands médecins étaient impuissants devant le mal dont souffrait Naaman. Et Naaman sombrait dans le désespoir à cause de ça. Il savait qu'un jour il allait devoir être séparé de son épouse, de sa famille, de ses proches et aller vivre dans la solitude du désert à cause de sa maladie, à cause de sa lèpre, malgré ses privilèges, malgré sa position. Et peut-être que ce matin, nous sentons proches de ce personnage. Peut-être que nous avons une place enviable dans la société, nous occupons un poste, un statut, une position élevée dans la société, dans le cadre de nos activités professionnelles ou dans un cercle d'activités quelconque. Et pourtant, malgré cette position enviable dont nous bénéficions, malgré la bonne réputation que nous avons vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos proches, malgré que nous nous faisons apprécier des uns et des autres, peut-être que tout comme ce grand capitaine, nous souffrons aussi d'un mal profond. Un mal qui nous empêche de pouvoir bénéficier de la paix. Un mal qui nous empêche peut-être de pouvoir bénéficier de quelque chose de bien meilleur à tous ces biens matériels peut-être, ou tout ce que nous sommes tout simplement. Peut-être que nous souffrons d'un mal qui nous empêche d'être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Peut-être est-ce le cas ce matin, malgré cette position enviable que nous pouvons occuper dans la société. Verset 3. Et elle dit, on parle de la petite fille, et elle dit à sa maîtresse, l'épouse de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On passe ici, déjà au verset 2, on en parle, sans transition du prophète, d'un grand homme à une petite fille. on passe sans transition d'un grand homme à une petite fille. Une petite fille qui avait été emmenée captive par Naaman. Il faut savoir que lors d'incursions fréquentes, récurrentes en terre d'Israël, l'armée de Syrie emmenait captifs, prisonniers, une partie de la population pour qu'elle devienne des esclaves, pour qu'ils deviennent des esclaves. Et c'était le cas de cette petite fille qui était devenue la servante de l'épouse de Naaman. Un grand homme, une petite fille. La Bible ne mentionne pas son nom. Elle l'appelle juste la petite servante. La petite servante. Un anonymat. Une position d'esclave insignifiante pour le monde. En contraste avec le grand capitaine, en contraste avec le commandant en chef de l'armée de Syrienne. Un grand homme, une petite fille. Mais quelle influence et quel impact, quel rayon de soleil dans la maison de son maître. Un grand homme, une petite fille. Quelqu'un d'insignifiant, mais quelle influence. Quel rayonnement ne va-t-elle pas avoir dans la maison de son maître Naaman? Est-ce que cette petite fille, cette condition médiocre, modeste, effectivement, ne nous fait-elle pas penser à ce verset que l'on trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, versets 27 à 29, où l'apôtre Paul dit que les choses viles de ce monde confondent les sages et Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu utilise les choses petites, méprisables, viles, faibles de ce monde pour confondre les fortes, pour confondre les sages. Pourquoi ? Parce que Dieu veut, à travers les instruments si faibles, si fragiles qu'il utilise entre ses mains, non pas attribuer la gloire de sa puissance aux hommes, mais qu'elle lui revienne à lui et à lui seul de plein droit. Dieu utilise les choses faibles. Dieu est utilisé, c'est un phénomène, c'est un principe qu'on retrouve régulièrement dans la parole de Dieu. Quand on considère l'enfant prophète Samuel qui était dans le temple, c'était encore qu'un petit gamin, et Dieu va l'utiliser pour transmettre une prophétie au prophète Élie. Dieu va utiliser le petit David avec un petit caillou qui va terrasser un homme aguerri à la guerre, un géant armé jusqu'aux dents. C'est insignifiant. Dieu utilise les choses viles, Dieu utilise les choses faibles de ce monde. Gédéon, Jérémie, moi, vous, si vous vous sentez faible, si nous nous sentons faibles, Dieu veut nous utiliser pour de grandes choses. Car Dieu se plaît à utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Un grand homme, une petite fille. Un grand homme, une petite fille. Un grand homme, une petite fille, mais une petite fille avec une foi immense. Une petite fille avec une foi géante. J'ai bien aimé Francis dans sa prière, lorsqu'il a introduit tout à l'heure, il a prié pour toi, Yvan. Et il a dit, entre autres, il a dit qu'il était convaincu, je ne me souviens plus des termes exacts, mais il était convaincu que lorsque nous prions Dieu pour quelque chose de bien précis qui est en fonction avec sa volonté, il est convaincu que cela va se réaliser, se produire. Dieu agit. La foi. Et la foi, cette petite fille, elle a la foi qui est inhérente aux petits-enfants dont Jésus parle dans les évangiles, en Matthieu 18, verset 3 en l'occurrence, où Jésus dit, si vous n'avez pas la foi d'un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas cette foi, cette confiance, cette dépendance, cette crédulité qu'a un petit enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ne pas se poser de questions, mais être convaincu que le Dieu auquel nous prions, le Dieu auquel nous nous adressons, est un Dieu tout-puissant qui est capable d'effectuer de grandes choses. Et la petite fille en était convaincue. Une petite fille avec une grande foi. Et c'est ce qui lui fait dire, c'est ce qui lui fait s'exclamer, ces paroles pleines de force et d'enthousiasme finalement à cette petite fille. « Oh, si mon maître, si mon Seigneur connaissait ou était près du prophète de Samarie, certainement que le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cette conviction, cet enthousiasme plein de foi qui caractérise cette petite fille. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète de Samarie, certainement que le prophète le guérirait de sa lèpre. Est-ce que nous faisons preuve aussi d'une foi semblable, d'une foi ferme, d'une foi qui ne chancelle pas, d'une foi stable, d'une foi convaincue, même si nous traversons des difficultés, même si nous rencontrons des vagues qui chahutent notre quotidien, est-ce que nous pouvons faire preuve d'une foi authentique, sincère, aussi forte que cette foi qui a animé cette petite servante. Une foi aussi qui interpelle, puisque cette foi-là, elle va aller jusqu'à interpeller le grand capitaine Naaman. Elle va lui donner de réfléchir. Si mon Seigneur allait ou était près du prophète de Samarie, certainement que le prophète de Samarie le guérirait de sa lèpre. Il va réfléchir à un point tel que finalement, au verset 5b, Naaman va accepter de se rendre en Samarie auprès du prophète. Verset 5b, prenant avec lui 10 talents, il partit. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman se décide donc de partir en terre d'Israël pour y rencontrer le prophète qui est susceptible de le guérir de sa lèpre. Il s'y rend aussi avec des dons ainsi que de l'argent, comme si il voulait acheter sa guérison, comme si il voulait payer la grâce de Dieu, de l'argent. Et depuis le début de l'ère chrétienne, les gens pensent pouvoir acheter la grâce de Dieu. Les gens pensent que la grâce de Dieu se mérite. Les gourous de certaines sectes lucratives l'ont d'ailleurs bien compris, hein, en profitant de la faiblesse de certains de leurs adeptes. Souvenons-nous aussi du XVIe siècle et de la Réforme, une époque où, je crois que c'est le pape Léon X, où le pape avait besoin d'argent pour financer la construction de la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Alors il a envoyé des moines 2x2 dans l'Empire pour faire du porte-à-porte et pour proposer aux fidèles de l'Église de l'époque de pouvoir acheter le pardon de Dieu via de vulgaires bouts de papier. C'est ce qu'on a appelé le trafic des indulgences. Acheter la grâce de Dieu. Acheter la grâce de Dieu. Les mentalités n'ont pas changé depuis l'époque de Naaman et des milliers de personnes encore aujourd'hui dans le monde, dans notre monde christianisé, pensent devoir mériter leur salut, le pardon et la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu ne la fait pas payer. Dieu ne fait pas payer sa grâce. C'est comme lorsqu'il y a un condamné à mort qui bénéficie de la grâce présidentielle. Le condamné à mort n'y peut rien. Il n'y est pour rien, absolument pour rien. Il reçoit une grâce, quelque chose d'immérité, c'est un cadeau. Et la grâce de Dieu, Dieu ne la fait pas payer. Il ne la monnaie pas. La grâce de Dieu ne coûte rien. Elle a coûté. Elle a coûté à celui qui en est la source, qui en est à l'origine, Jésus-Christ lui-même. Mais pour nous, elle nous est en bénéfice gratuit. La grâce de Dieu est quelque chose de gratuit. Naaman pensait pouvoir acheter la grâce de Dieu pour pouvoir bénéficier de la guérison. Il est venu avec de l'or, il est venu avec des dons. Mais on ne peut pas acheter la grâce de Dieu. encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas acheter la grâce de Dieu. C'est un don, quelque chose de entièrement gratuit. Et c'est le prophète Ésaïe 55, verset 6, qui dit « Vous tous qui avez soif, dit Dieu, donc par la bouche du prophète Ésaïe, venez aux eaux, même si vous n'avez pas d'argent. Tenez, prenez, mangez, venez, prenez du vin et du lait, sans rien payer. » La gratuité des bénédictions de Dieu, la gratuité de la grâce de Dieu. Dieu accorde sa grâce et sa bénédiction de façon tout à fait gratuite. Naaman doit donc faire l'expérience que tous les efforts de l'homme pour obtenir la grâce de Dieu sont vains. Versets 9 et 10, nous découvrons dans ces versets que Naaman va encore apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il va apprendre ? Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élysée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Les chevaux et les chars, dans la parole de Dieu, représentent la pompe, pas la pompe à air, mais la pompe, les grandes pompes, la pompe et l'orgueil humain. Et Naaman va apprendre que sa propre grandeur, sa position, son statut, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Et sa position et son statut n'ont aucune valeur non plus devant le prophète Élysée, qui va le considérer comme un malheureux lépreux qui a besoin d'être purifié. Alors ça ne va pas plaire à Naaman. Il est blessé dans son orgueil. Et Naaman va s'irriter contre le prophète et il va s'irriter pour deux choses. Premièrement, il va s'irriter contre le prophète parce qu'il ne vient pas personnellement à sa rencontre, mais il envoie un intermédiaire. Et puis, il va s'irriter contre le prophète parce qu'il lui donne un message simple, trop simple, et puis tellement fou. Tellement fou. Fou pour le monde. Et ça nous fait aussi penser à un autre verset, ça. Toujours écrit, sorti de la plume de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, mais je ne me souviens plus de la référence, qui dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est une folie pour le monde. Allez maintenant, certaines personnes, si vous leur parlez de la croix, de l'œuvre de Christ et du sang qui a été versé pour le pardon de leurs péchés, ils vont tirer des yeux comme ça, ils vont vous prendre pour un illuminé, pour un mystique, et ils vont vous traiter de fou. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Naaman doit donc apprendre l'humilité. Pour obtenir la guérison, il doit quitter son orgueil, il doit s'abaisser. Le verset 11, le « je me disais » du verset 11 constituait l'obstacle. Il disait « je me disais que... » Je n'avais qu'à paraître en restant assis sur mon char et que le prophète allait venir, ajoutant plus d'éclat encore à la scène, en implorant le nom de l'Éternel son Dieu et en promenant sa main sur les parties de mon corps blessées. Et voyons, c'est ce à quoi s'attendait le grand capitaine, pensant que Élysée allait être honoré par la visite d'un si grand homme. Mais voici que ce dignitaire est renvoyé avec un message simple et sec. Il lui est enjoint, comme cela aurait été dit, annoncé à n'importe quel commun mortel, d'aller se laver dans les eaux du Jourdain ouvert à tous. C'était bien sûr traité... le grand capitaine Naaman avec trop de désinvolture, de façon bien trop désinvolte. Ce à quoi d'ailleurs il va rétorquer, les eaux de l'Abana et du Parpar qui coulent à Damas ne valent-elles pas mieux que toutes les eaux qui coulent en Israël ? Son orgueil, son amour-propre ont failli le faire passer à côté de la guérison. Son amour, son orgueil ont failli le faire passer à côté de la grâce de Dieu. C'est la même chose pour nous. Pour ce qui nous concerne. Notre orgueil, notre amour-propre constitue aussi un obstacle parfois à ce que nous réceptionnons, à la réception de la grâce de Dieu et de son salut. Je suis une bonne personne. Je n'ai jamais fait rien de bien grave. Ces propos de propre juste constituent un obstacle à la réception du salut. Peuvent constituer un obstacle à la réception du salut. Ces propos de propre juste font qu'on méprise finalement la grâce de Dieu. Cette grâce dont pourtant nous avons tant besoin. L'orgueil de Naaman a failli le perdre, et heureusement pour lui, ses serviteurs se sont approchés de lui pour tenter de lui faire entendre raison et pour le convaincre de sa folie. Et tant et si bien que un de ses serviteurs va lui dire, mais si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, je ne sais pas moi, monter 24 fois et redescendre sur le mont Carmel, ne l'aurais-tu pas fait ou ne? Alors Naaman va répondre, il dit, mais bien sûr que je l'aurais fait. Et puis les serviteurs de reprendre la parole et de lui dire, mais alors, pourquoi est-ce que tu ne fais pas la chose simple que le prophète te demande de faire? Alors il va rentrer en lui-même, les écailles vont tomber de ses yeux, et il va aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et il va en sortir purifié, avec la peau comme celle d'un jeune garçon, d'un nouveau-né, toute pure. La petite fille avait rendu témoignage. Le prophète avait délivré son message simple, précis, clair. Et puis les serviteurs, maintenant, s'approchent de lui et font valoir la simplicité du message. C'est simple. Fais-le. Et de même aujourd'hui, il y a ceux qui font l'œuvre de la petite fille. Ceux qui invitent à venir écouter le message de la grâce. Et puis, il y a ceux aussi qui font l'œuvre du prophète. Ceux qui délivrent le message de la grâce. Les prédicateurs de l'Évangile. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, ceux qui font l'œuvre des serviteurs. Ceux qui s'approchent individuellement des âmes pour, dans ce travail de un à un, dans ce travail individuel, pour tenter de doter les difficultés et les obstacles qui se dressent devant l'être humain qui voudrait saisir la grâce mais qui ne parvient pas encore. Dans la Bible, on va bientôt terminer, dans la Bible, la lèpre est souvent le symbole du péché. On pourrait montrer les parallèles qu'il y a entre les deux situations, la situation du pécheur et la situation du lépreux. On voit notamment en Lévitique chapitre 12 et 14, ou 14 et 16, je ne me souviens plus, je crois que c'est 14 et 16, on voit que le rite de purification est le même pour le lépreux que pour le pécheur. Même rite de purification. Alors on voit aussi que finalement l'immersion de Naaman dans les eaux du Jourdain est une figure, pourrait être une figure du baptême. Du baptême chrétien qui, finalement, traduit l'expérience que le chrétien, par laquelle le chrétien est passé. Il est plongé, il abandonne sa vie passée, il ressort de l'eau en nouveauté de vie. Témoignage. Il témoigne aussi de son engagement de façon publique. Et puis, le Jourdain. Le Jourdain, dans la parole de Dieu, il marque souvent, en quelque sorte, le passage d'un état à un autre. Quand on voit le peuple d'Israël, par exemple, quand il traverse le Jourdain, eh bien, on voit qu'il laisse derrière lui les 40 années d'errance dans le désert pour rentrer dans une nouvelle sphère. Celle du pays où coule le lait et le miel, le pays de bénédiction, le pays de Canaan. Donc le Jourdain, il est là pour marquer la différence, l'avant, l'après. Conclusion. Dans quelle période de la vie de Naaman, nous trouvons-nous? Dans quelle étape de la vie de Naaman nous trouvons-nous? Avons-nous été purifiés de cette lèpre intérieure qui occasionne des dégâts à notre cœur, de cette lèpre qui nous sépare de Dieu et qui nous condamne à la mort éternelle? Est-ce que nous avons été purifiés de cette lèpre? Avons-nous été lavés par le sang précieux de Jésus, si bien que notre reconnaissance nous pousse au témoignage et à la louange? Comme pour Naaman, qui a décidé d'honorer, d'adorer, de louer le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Et enfin, troisièmement, sommes-nous toujours atteints du bacille du péché qui continue à faire ses dégâts dans notre cœur? Et si tel est le cas, ne tardons pas à passer par ce que l'apôtre Paul, lui encore, appelle le bain de la régénération. Ne tardons pas à passer par le bain de la régénération, de la vie nouvelle, la régénération. Que Dieu nous aide donc à considérer peut-être les différents points que nous avons abordés ce matin à travers l'histoire de la vie du grand capitaine Naaman, qui a fait cette expérience unique et indispensable avec le Dieu d'Israël, qui lui a ainsi ouvert la porte des cieux en lui accordant un salut éternel.